Bonjour, bonjour. On est sur le 12e épisode de la capsule Indiwa en transat. C'est maintenant, Romain, il faut que tu sois prêt. On y va. Tu vas nous faire un petit récap de ces derniers épisodes. Et puis aujourd'hui, on a un invité en plus, c'est Sacha.
Salut
à toi.
Salut à vous.
Moi, il me semble que du coup, dans certains épisodes dont Romain nous a déjà conté les aventures, tu as plus ou moins aussi fait partie de ce petit périple. Enfin, pas forcément du coup du voilier, mais tu étais là un peu avant aussi en Martinique. Enfin, il a évoqué quand même ton petit blaze de temps en temps. Du coup, je voulais savoir si tu avais envie vite fait de faire une petite intro là-dessus ou pas spécialement.
Eh ben, je suis parti en Martinique avec Romain, du coup, pendant 7 mois. Et voilà, on était en coloc, donc c'était, ouais, c'était bien.
Ouais, j'étais
une bonne expérience.
Ouais, on est partis ensemble. Moi, j'étais déjà allé en Martinique et quand je suis revenu un été en France et puis après, enfin en métropole. Et puis après, je suis reparti avec Sacha, ouais. Et puis il serait peut-être bien revenu avec moi aussi en bateau, mais il avait déjà pris son billet et puis il avait déjà des trucs de prévu en rentrant. Donc
spoilé ma question.
Il a pas.
Non mais oui, je voulais savoir si toi c'était parce que ça te branchait pas trop l'aventure ou c'est que t'avais d'autres projets de base.
Non, ça m'aurait bien dit. D'ailleurs, on m'a pas mal incité, Lisa, Romain, ouais, ils avaient bien envie que je fasse partie de cette aventure, mais non, j'avais prévu en fait des trucs en rentrant, ouais. Et puis le billet d'avion un peu plus à l'avance avant même qu'il sache que David cherchait pour rentrer en bateau.
Et est-ce que ça posait quand même une petite graine dans ta tête en mode de, ouais, je l'ai pas fait cette année mais peut-être je le ferai un jour dans ma vie, quoi.
Oui complètement, oui, yes. Oui. Ouais, avec plaisir, ouais. Mais peut-être dans l'autre sens du coup.
Ouais, c'est presque plus satisfaisant en plus de faire la traversée pour arriver.
C'est plus satisfaisant, carrément. Hein. T'arrives dans les. Quand t'arrives, c'est la concrétisation, c'est génial. Et puis même niveau de navigation, niveau tout, c'est beaucoup mieux parce que c'est plus court. Et puis en fait, t'as les alizés qui remontent, des courants de vent qui remontent vers les Antilles en fait depuis les Canaries ou le Cap Vert. Et du coup, tu passes forcément par ces îles déjà, donc c'est sympa aussi. Et puis après, t'as 10-15 jours de traversée tout droit. Et tu te fais porter par les vents, c'est super, super cool quoi. C'est un beau temps en général et tout, alors que nous, quand tu fais la retour, c'est plus galère, quoi. Tu peux ne pas avoir de vent, tu montes pour aller reprendre cette dépression qui te fait redescendre sur les Açores. C'est autre chose. Mais cette transatlantique, elle est plutôt abordable. Il y a pas mal de gens qui la font et qui cherchent des coéquipiers en plus.
Tu te renseignes où pour
Bourse aux coéquipiers.
Bourse aux coéquipiers.
Ouais, ça s'appelle comme ça. Il y a d'autres sites, je suppose, mais ça, c'est un des plus connus. Tu trouves sur Facebook et puis sur Internet, en général.
Tu as les dates des traversées.
Ouais, tu as des gens qui mettent des posts, quoi, et qui disent, ouais, voilà, j'ai besoin de telle date. Ou alors, il y en a, ils font des espèces de CV de salut, j'ai déjà navigué sur ça. Et puis, moi, je cherche quelqu'un pour aller de telle période à telle période. Okay. Il y a énormément de personnes qui font ça. Et nous, d'ailleurs, même pour une croisière, on avait fait ça. On n'était pas assez. En gros, on avait un super prix pour partir quand on était parti la première fois avec David aux Grenadines. Donc, avec le catamaran que je découvrais pour la première fois. On n'était pas assez en fait, pour partir. Et du coup, on avait demandé à une personne sur Bourse aux coéquipiers. Bourse aux équipiers, je ne sais plus, ou aux coéquipiers. Enfin, comme ça.
Un truc dans le genre.
Et puis, on avait trouvé un Suisse qui était venu avec nous. C'était marrant.
Eh bien, merci pour cette petite info. On continue sur ton périple.
On était partis des Açores.
Vous étiez à trois.
Ouais, on n'était que trois. Et ça faisait déjà 2 jours qu'on était partis, je crois, des Açores, un truc comme ça. 2-3 jours. Et c'était plus fatigant parce qu'on était un de moins. Donc, l'écart était plus compliqué. Et moi, je galérais encore à dormir parce qu'il y avait pas mal de houle. Et puis voilà, on avançait. C'était la prochaine étape, c'était Gibraltar. Et puis, c'est parti.
Allez, on t'écoute.
Juin 2024, jour 34 transatlantique. Je me lève à 2 heures pour mon quart. J'ai réussi à dormir un peu, mais pas assez faute de temps. Le réveil est un peu compliqué, mais ça va. Par contre, tenir les 4 heures, ça va être compliqué. Bonne nouvelle, on a passé la barre des 800 000 encore à parcourir, ça avance vite. Moins d'une heure après le début de mon quart, le vent tombe. J'allume un moteur, mais ça ne suffit pas pour maintenir les voiles gonflées. Je réveille David et on affale les voiles. C'était un peu sport et ça glissait un peu avec l'humidité, mais on s'en est sorti. Puis, mon quart a continué et ça a commencé à être dur sur la fin. Je somnolais pas mal. Laura s'est ensuite levée pour prendre mon relais. À ce moment-là, j'ai voulu changer de moteur pour ne pas avoir à subir son boucan lorsque j'irai me coucher. Mais en réalisant la manip, il y a eu une sorte de bug et le moteur ne voulait pas s'éteindre. J'ai alors couru réveiller David, mais pendant son temps, Laura a réussi à l'arrêter en faisant exactement la même chose que moi. Encore une fois, que d'émotions pendant cette transat. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. À peine cette histoire terminée, que le soleil se lève en perçant les nuages avec sa robe majestueuse. Certains croyants auraient pu y voir un signe de Dieu, d'autant plus qu'à ce moment-là, je dis à Laura, « Il manquerait plus que des dauphins. » Et vous connaissez la suite. À peine suis-je descendu dans ma chambre pour aller m'endormir que Laura vient me chercher en me criant, en chuchotant, pour ne pas réveiller David. « Dauphin, dauphin !» Je ne sais pas comment je vais faire pour vivre des moments plus forts derrière. Puis, malgré ce moment fort en émotion, je suis parti me coucher. J'ai réussi à dormir jusqu'à 10h30 environ, puis j'ai regardé dans mon lit la merveilleuse histoire d'Henri Sugar. Une sorte de long métrage particulier, original et très intéressant. Après ça, une fois levé, nous avons mangé. Dave avait préparé un breakfast à l'anglaise et c'était parfait pour un réveil. Dans l'après-midi, Dave vérifie le moteur bâbord qui s'est pris dans la bouée aux Açores. Quand le bout s'est pris dans l'hélice, le joint du spi a vrillé. L'huile s'est donc mélangée à l'eau et nous devons donc arrêter de l'utiliser. On perd donc un moteur, mais je gagne en tranquillité pour dormir. Il faut voir le positif dans le négatif. Par contre, Dave va devoir sortir le bateau de l'eau pour changer la pièce. On risque donc de s'arrêter au port Saint-Louis en Camargue pour s'occuper de ça. Quand on hisse à nouveau la grand voile, un peu plus tard, on remet une fois encore un coulisseau en place. Mais ça va, on avance. Dans la nuit, on va passer sous les 700 000. En fin d'après-midi, on fait un domino avec comme d'habitude de magnifiques couleurs qui descendent du ciel. Puis, avec Laura, pendant que Dave nous prépare des petites faritas, on joue un petit peu au punto. Fin de soirée tranquille, pendant laquelle on se regarde un petit truc avec Laura au début de son quart, avant que j'aille tomber dans les bras de Morphée. J'étais mort, ça m'a fait du bien. Prise de quart à 6h demain matin.
C'est David, en fait, votre cuisinier à bord, un petit peu. Du coup, ben, ce que j'ai compris, parce que
en
les
fait,
petits
ouais,
breakfasts anglais, les petits faritas, il y a eu d'autres choses aussi, je crois qu'il avait fait à un moment.
Ouais, en gros, David adore cuisiner, déjà. Et il adore chouchouter un peu les gens qui sont sur le bateau, il adore faire les choses aussi un peu lui-même.
On va aller faire une petite croisière avec David.
On va aller se faire chouchouter sur un bateau aussi.
Du coup, il nous faisait des plats très régulièrement. Et bon, des fois, ça a posé un tout petit problème au bout d'un moment où les filles, elles aimaient bien aussi cuisiner. Du coup, elles avaient envie un peu de faire aussi. Et bon, du coup, après, quand Lisa était partie, Laura s'est mise à faire aussi pas mal de trucs. Du coup, voilà, ça fonctionnait bien. Moi, je suis pas trop cuisine, donc ça m'allait bien. De base, je m'étais préparé à me dire, vas-y, je vais faire bien ma part et tout. Mais bon, du coup, on se répartissait les tâches autrement. Tu vois, je faisais un peu plus la vaisselle. Et Dave la faisait pas quasiment, je crois. Enfin, si, sur la fin, du coup, avec Laura, quand elle s'est mise à faire la cuisine, là, on tournait à peu près équitablement. Mais ouais, non, c'était sympa de sa part, c'était cool. Voilà, tu en avais notamment les faritas, là, tu sais, les galettes de blé ou de maïs. C'est trop bien en bateau, en fait, parce que ça prend pas l'humidité. Enfin, c'est dans des sachets. Et du coup, en gros, on avait du pain un peu, en fait, jusqu'à la fin, quoi.
Ok, bah alors ça, c'est
que, ouais, le pain, en fait, normal, et ben, ça se conserve très peu, quoi. Du coup, ouais, plutôt pratique.
Ouais, parce que je pense que c'est important aussi, enfin après là c'est très personnel, mais quand tu manges bien, c'est mieux en général. Parce qu'après si grave. Tu bouffes vraiment, enfin ouais. Que des petits repas ou que des trucs ouais. Nuls, enfin tout fait et tout, bah je pense que déjà si t'es fatigué, si c'est un peu tendu des fois au niveau des manœuvres et tout, bah si t'as la dalle, bah
ah ouais non c'est en plus sur un bateau genre t'as plus faim, je sais pas comme pourquoi mais j'avais l'impression de manger
mais c'est comme quand t'es dans le sud, je crois justement quand t'es près de la mer ou des océans et tout, il y a un truc qui se crée où t'as un appétit un peu plus, enfin je crois c'est pas que ton point de vue mais je crois que c'est un truc général tu vois, mais je suis pas sûre.
Ah, je connaissais pas cette théorie ou ce fait, j'en sais rien. Mais carrément, j'avais faim un peu tout le temps. Et pendant les quarts, je mangeais forcément un truc, je me faisais un espèce de goûter ou un apéritif, un truc. J'étais obligé de manger. Je me levais, je mangeais. Après, on se faisait à manger le midi, après un 4 heures, après le soir et après pendant le quart. Ouais, je mangeais genre 4 ou 5 fois par jour, tu vois.
On a dit trop pas, Obélix.
Bon bah là on a parlé d'alimentation au moins.
Ouais c'est vrai, parce que pour nos auditeurs et auditrices, on nous avait posé la question hors antenne de savoir comment on se nourrissait. Et donc on variait pas tant que ça au fur et à mesure, enfin sur un mois et demi c'est dur de varier sur le bateau. Mais sinon c'était beaucoup de féculents, enfin des pâtes, du riz, des haricots, beaucoup d'aliments en boîte aussi parce que c'est ce qui conserve le mieux. Et on a réussi à garder quand même des trucs frais bien longtemps. On a eu des fruits je crois mais presque jusqu'aux Açores et des légumes pareil. Et puis en plus vu que les filles étaient végé, enfin c'est le centre de leur alimentation vraiment, les fruits et les légumes quoi, c'est alors que nous tu vois on bouffe un peu des trucs à côté, ça va quoi, un peu de viande, un peu de même des biscuits, des trucs, des machins, enfin tu sais, je sais pas, vu que c'est pas le cœur de ton alimentation, si t'en as moins, c'est
mais
pas
tu fais
trop
moins
grave.
Attention quoi.
Ouais, voilà ça. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on bouffait d'autre. On faisait souvent des croque-monsieur, des toasts, des pains de mie, enfin des trucs, des sandwichs un peu aussi. Moi, il y a un truc où je pouvais plus à la fin, alors que j'aime beaucoup ça de base, c'est la betterave. On se faisait souvent des salades de betterave. Et tu sais, en morceaux, là, tu vois pas la betterave râpée, les morceaux là, un peu de. Je sais pas d'où on sortait ça de base, si c'était en boîte ou truc ou quoi, mais à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Je pouvais plus en voir, quoi. C'est quand ils refaisaient une salade de ça, j'étais là, oh, putain. Alors que j'aimais bien quand même.
Ouais, ouais, moi, c'est pas que j'aime pas l'alimentation, mais il y a un autre truc qui a fait écho en moi quand t'as lu cet épisode-là. C'est ce côté émotionnel et sensation de te demander comment t'allais réussir à t'émerveiller encore, enfin, quand t'allais rentrer, parce que tu vois tellement de choses qui changent et tout. Et moi, je sais que, surtout lors de mon premier voyage, qu'après, en fait, tu te rends compte que dans plein d'autres voyages, tu vas revivre des trucs de ouf. Mais j'avais trop cette sensation aussi avant de rentrer d'Australie de « Mais attends, comment je vais faire pour m'émerveiller comme ça quand je vais rentrer ?» Parce que tout va être différent et t'as l'impression que tu vas vraiment retrouver un truc classico, basique, routine et tout. Et donc, ça m'a quand même bien fait écho, ce côté d'être émerveillé constamment et d'avoir cette petite appréhension de « Bon, je vais rentrer dans le pays dans pas trop longtemps, là, ça va être chaud. »
Je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait, de retrouver du coup le Diwa, qui est notre magnifique région et qui est...
la maison.
On a de la chance quand même de vivre dans une région aussi belle. Ouais. Et ben, quand je suis revenu, c'était quand même incroyable, tu vois. Et puis justement, j'étais encore sous l'émotion du truc. Tu vois, je revenais chez moi, c'était, j'étais content, tu vois.
Non, mais c'est-à-dire que c'est pas beau, un quoi. Fait, tu vois. Enfin, tu n'as pas forcément une dépression quand tu rentres, mais c'est vraiment un ressenti que tu as avant de rentrer, ou pendant le voyage, où tu dis, waouh, j'en prends tellement plein la vue, là, que ça va être dur.
Mais même pendant le voyage, je me disais, comment demain je vais faire pour vivre quelque chose d'encore plus fou. Et en fait, à chaque fois, c'était la surenchère, en fait. Et ça, c'était particulier comme sentiment, T'es là en mode, tu te dis non mais je peux pas vivre plus que ça là, ça c'était complètement fou, tu vois. Et en fait si, à chaque fois c'était ça. Et du coup depuis par contre, au début ça allait, heureusement que je suis pas retourné j'habitais pas en ville, tu vois, et là je serais retourné en ville, ça aurait fait le choc je pense.
T'as pris un canoë, t'es allé sur la Drôme.
T'es arrivé l'été aussi.
Je suis arrivé l'hiver, l'enfer. Ah ouais, non,
même automne.
J'aurais été en dépression, je pense. Ouais, même automne. Ouais, non, je suis arrivé avant l'été, en juin. Donc, c'était sympa ça. Et puis le Diwa l'été en plus, c'est trop cool. Donc ça allait, pendant un moment, je pense, j'étais sur ce truc-là. Et puis je voyais la montagne et tout. La mer m'a vite manqué par contre. Et puis avec Sacha, on est un peu parti en vacances, on est reparti dans l'Ouest, on a vu d'autres trucs. C'était sympa, mais effectivement, je me suis pas émerveillé une fois depuis autant, enfin qu'une seule de ces fois, de toutes ces fois où je me suis émerveillé pendant ce voyage. Mais loin, tu vois. Genre, c'était trop. Et puis même, t'es dans un état émotionnel qui fait que Tu sais, moi, je suis pas. Il y a beaucoup de personnes, j'en ai déjà parlé, ça, ça arrive de pleurer, tu vois, pendant un transatlantique, que ce soit pleurer de passer un paysage magnifique ou juste passer un moment dur ou quoi. Moi, ça m'est pas arrivé. C'est pas l'émotion qui me vient directement, tu vois. Mais j'avais des émotions tellement fortes, tu vois, quand je voyais des paysages magnifiques que je peux pas revivre pour l'instant. Il faudrait que je reparte, je sais pas, pas forcément en bateau, mais. Mais il faudrait que je reparte un long moment, je pense, pour revivre des trucs. Après, moi, j'arrive à... moi, j'adore les paysages, en fait. Donc, dès que je vois un truc un peu joli, avec une belle couleur, ça m'émerveille et ouais. J'adore ça. Donc, pas besoin d'être en mer, mais besoin un petit peu de partir, ouais, quand même, je pense. Même si notre région est très belle. Bon, là, ça va être... C'est le retour de l'été bientôt, donc c'est sympa aussi.
On part sur le jour 2 ?
C'est parti. Juin 2024, jour 35, transatlantique. Je me réveille à 6 heures après une super nuit. J'ai enfin pu dormir quasiment d'une traite. Bon, par contre, j'aurais aimé ce matin dormir tellement plus longtemps, j'ai été bien. Je pense qu'en rentrant, je vais dormir 2 jours. Et puis là, j'ai passé un de mes pires quarts. Déjà, en croisant David, celui-ci m'a dit qu'on avance à la voile, mais qu'il s'était battu toute la nuit avec Laura pour maintenir les voiles et ne pas trop utiliser le moteur. Puis il est parti se coucher. Premièrement, il faisait froid. J'ai mis du temps à me réchauffer, mais de toute manière, il n'a pas bien fait meilleur dans la journée. Deuxièmement, j'ai aperçu que 2 nouveaux colissos avaient sauté. Je ne peux plus me les voir ceux-là. Bon, la voile tient quand même, mais faut pas abuser. Troisièmement, les conditions de vent changeantes. On marche à 6-7 nœuds au près, puis d'un coup on passe à 2,5-3 nœuds. Les voiles finissent donc par vaciller, et il faut donc que j'allume le moteur tribord pour faire un appui moteur et garder les voiles gonflées. Et ça remonte à 6 nœuds, donc je coupe l'émetteur, etc. Sans compter les fois où j'ai tenté et où réussi à régler les voiles sans moteur. C'était donc plutôt exténuant de toujours être attentif et de se lever plus régulièrement. Et enfin, quatrièmement, il y avait de la fatigue. Une fatigue qui s'accumule depuis 35 jours que nous sommes sur ce bon vieux bateau. À trois, c'est plus compliqué et d'autant plus à ce moment du voyage. Toutes ces raisons cumulées ont fait que le moment était compliqué, mais une fois que Laura s'est levée, j'ai pu aller me recoucher et me rendormir presque directement de 10h30 à 13h30. Après mon repas petit déjeuner, j'étais enfin requinqué, reposé et avec un regain d'énergie. Mais bon, il ne faisait pas beau, même s'il ne pleuvait pas, ce qui n'est presque pas le cas depuis que nous sommes partis des Açores. Alors, nous avons regardé le troisième Pirate des Caraïbes avec Laura.
Ils ont commencé à chanter. Il était temps.
Ce jour-là, j'ai également fini L'étranger d'Albert Camus. Je l'ai lu en 3 jours, il se lit vite. Il est super bien écrit, mais il est vachement particulier comme bouquin. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ensuite, nous avons joué à nouveau au domino. Hier, j'ai gagné. Aujourd'hui, c'est David qui nous met une branlée. Mais tellement rapide qu'on en refait une. Et malgré le fait que Laura menait, j'ai réussi à la coiffer au poteau. Après, on a mangé un bout et puis j'ai pris mon car un peu en avance vers 21h45. Aujourd'hui, on marche bien à la voile. Et c'est différent de ce matin. On tourne entre 5 et 7 nœuds sans trop varier. On avance bien. On passe d'ailleurs sous la barre des 600 000, juste avant mon car. On espère que cette nuit sera plus facile que la précédente et que les conditions resteront comme elles le sont. Pendant ce car, cette fois, malgré la longueur de celui-ci, tout se passe bien. On trace tout droit vers Gibraltar. Demain, on attaque les 500 000. Malgré ça, le temps est un peu long. Pour le faire passer, je regarde Wild Hunting, que j'ai beaucoup apprécié en VO avec Matt Damon et Robin Williams. Il y a des dialogues très intéressants sur la vie et les relations humaines. À 2h, Laura se lève et prend mon relais. Je suis un peu fatigué, mais pas non plus au bout. Par contre, j'ai un peu mal au ventre. J'espère réussir à bien dormir. You'll never see the promises you'll only make. The people you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and move into your will. I'll keep them still.
Je trouve ça vachement cool que dans tous tes petits épisodes, il y ait des refs de films, de livres, de musique ou de jeux de société. Enfin, c'est chouette, ça fait une petite culture G en plus pour ceux qui ne connaissent pas ou se dire « Ah ouais, c'est vrai, c'était cool ce film ou ce livre, je pourrais peut-être le relire. » Enfin voilà.
Bah, c'est gentil, merci. Mais en soi, il faut s'occuper sur un bateau. Donc tu passes un moment de ta journée à rien faire, à gérer les voiles, à gérer la vie à bord, mais aussi il faut se divertir. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup les films et les séries, donc j'ai passé un peu de temps à regarder des films. Mais au final, sur la durée, tu vois, peut-être j'en ai regardé sur 45 jours, j'ai dû peut-être regarder 15 films peut-être. Tu vois, donc au final, c'est pas énorme, tant que ça non plus. Ouais. Et j'ai lu aussi pas mal de bouquins. Ouais. J'ai dû lire 4 bouquins, un truc comme ça.
Mais c'est cool d'avoir le temps pour. Tu vois, justement, tu disais, bon, il y a le côté des fois où tu sais pas trop quoi faire et tout, mais d'avoir cet espace-là pour dire que si t'as envie d'écouter de la musique, de lire un bouquin, de regarder un film, c'est ok quoi, t'as le temps de le faire et c'est chouette.
Et puis je sais pas si c'est le moment ou quoi, mais il y a plein de films que j'ai adoré de fou, tu vois. Mais en plus j'ai vu beaucoup de films que j'avais pas vu. Je suis pas retourné dans. Enfin, quand on regardait des films ensemble, J'ai vu que des films que j'avais déjà vus.
Les sources sûres pour
les
crew.
Parce que, en même temps, c'était parce que j'avais mon disque dur, je croyais qu'on regardait les films un peu que j'avais. Et par contre, quand j'étais tout seul, là, je regardais des films que j'avais pas vus, que je voulais voir. Et il y en a plusieurs que j'ai adoré. Enfin, Wild Hunting, là, je le trouve incroyable ce film.
Il est génial.
Je l'avais jamais vu. Et je sais pas si c'est l'émotion vraiment de. Je sais pas, où t'es plus. Je sais pas, même à recevoir des trucs un peu. Je sais pas comment dire, mais t'es plus sensible peut-être un peu.
Il y a des choses qui résonnent différemment aussi. Quand tu vis une nouvelle expérience de ta vie, il y a des choses qui. Un film que t'as déjà vu 3 ans avant, autant tu vas pas le ressentir de la même manière.
Ouais, c'est possible. Tu vois, par exemple, on avait vu Les Bronzés font du ski. Putain, qu'est-ce que c'était drôle. J'en aurais bien. Tu sais, je me souvenais pas qu'il était aussi drôle. Tu vois, j'avais vu, puis j'ai fait. Puis à la fin, ça s'arrête un peu, tu sais, d'un coup, le film. Et ça, je me souvenais pas de ça. Et genre, j'ai dit aux autres. Mais j'aurais pu rester une heure et demie de plus à regarder ça, là. Franchement, ils auraient pu balancer d'autres vannes.
Sacré film aussi.
Ouais. Ouais, excellent. Surtout la fin. Là,
moi, j'adore quand ils boivent leur truc super fort, là.
Ouais, mais c'est ça, enfin, cette scène, elle est excellente.
C'est quoi, avec les
crapauds, là ? Mais non. Tu vois, il y a cette scène, et en fait, juste après, ils partent quasiment. Mm. Genre, en 3 minutes, ils sont partis, allez, ciao. Bah, à la prochaine coup, tu restes un peu sur le. Ah putain, qu'est-ce que c'est ?
C'était drôle, quand même.
Mais du coup, pour rester sur les activités, en fait, vous aviez une activité principale en commun, là, c'était la fameuse coinche, toute la première partie de la transatlantique. Mais du coup, le fait que Lisa soit partie, c'est passé au domino. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est ça, on était plus 4, donc on pouvait plus faire de coinche. Fait chier, putain. Laura, Lisa, t'abuses, hein. Franchement, t'aurais pu ne pas te blesser quand même.
au moins pour l'honneur des coinches, quoi.
Ouais, non, carrément, ça faisait chier. Bah, surtout qu'en plus, à la fin, on en faisait un petit peu moins parce qu'il y avait eu des grosses conditions, un peu de la mer, tout ça. Donc, on en faisait un peu moins. Là, ça manquait un peu. Et du coup, les dominos, enfin, moi, j'adore les dominos parce que, en fait, aux Antilles. Ils jouent beaucoup, dans les îles notamment, ils jouent beaucoup au domino. Et c'est des dominos un peu compétitifs, c'est pas juste le domino classique que quand tu joues quand t'es gamin. Il y a un peu d'enjeux, il y a des techniques, machin, faut calculer, etc. Et du coup, par contre, les deux autres n'étaient pas trop domino, ça va, enfin un petit peu. Mais du coup, il n'y avait pas l'enjeu, tu vois, comment jouer aux Antilles. Mais même en soirée, à chaque soirée qu'on faisait aux Antilles, il y a une table à un moment dans la soirée qui se fait de joueurs qui jouent au domino. Ça boit des coups, ça joue au domino, tu vois. C'est assez marrant quand même. Même au bar, des fois, on allait au bar, c'est une soirée normale, et puis quelqu'un a pris son jeu de domino. Et puis là, ça jouait sur un coin de la table au bar, alors que les autres font autre chose, tu vois. C'est pas tout le monde joue, parce que tu peux jouer qu'à 3. Le domino martiniquais est à 3.
C'est un peu comme la pétanque dans le sud, quoi. Tout le monde y joue.
C'est carrément ça. C'est le jeu.
Vivement qu'on s'y remette d'ailleurs. Je trouve de faire des pétanques
avec les amis.
Viens à Barnab, ils ont déjà repris la saison.
Ah, super, j'arrive. À toutes.
Les dominos. Mais bon, on n'en a pas fait tant que ça. Je crois qu'après ça, je ne sais même pas si on rejoue une fois. Peut-être une autre fois, tu vois. On jouait un peu à un petit jeu qui joue à deux avec Laura, c'était le Punto. T'as joué avec moi aussi, tu connais le jeu.
Moi, je sais pas ce que c'est.
Moi, ça me fait penser au nom du chien dans les 100 dalmatiens.
Je peux pas trop l'expliquer comme ça, je pense.
Ah non, c'est Pongo.
Pongo.
Pardon. Je peux pas trop te l'expliquer comme ça. C'est un jeu assez simple à jouer à deux, ou à trois, ou à quatre d'ailleurs, qui joue avec des cartes que tu disposes. Enfin bref.
D'accord.
C'est sympa. Okay, d'accord. Pas le meilleur jeu, mais sympa. On part pour ce dernier jour.
Allez.
juin 2024, jour 36, transatlantique. Aujourd'hui, il fait toujours froid et pas beau. Ça commence à devenir un peu agaçant. On n'est plus très loin du sud de l'Europe et on est à la bonne latitude. Je ne comprends pas trop ce si grand écart de température avec les côtes espagnoles ou marocaines. Mais on espère que ça changera vite. Bien hâte de prendre le soleil et une bonne douche en tout cas. Parce qu'il fait trop froid pour depuis les Açores. On a des lingettes, mais bon, c'est pas pareil. Ce matin, je me suis levé vers 10h pour relayer Dave, mais je n'ai pas bien dormi, encore une fois. Bon, hier, c'était l'inverse, donc 2 jours d'affilée, ça aurait été trop beau. Une fois debout, au-delà d'écrire ces lignes, je commence l'art de la guerre de Sun Tzu. Pour ceux qui ne connaissent pas, et ou qui sont pacifistes, ça doit avoir l'air barbant. Mais j'ai à peine commencé, et ça a l'air très intéressant. Une des phrases de la préface vous aidera peut-être à comprendre. Sun Tzu croyait que le stratège habile doit être capable de soumettre l'armée ennemie sans engagement militaire, de prendre les villes sans les assiéger et de renverser un État sans ensanglanter les épées. En début d'après-midi, on passe la barre des 500 000. On avance, on avance. On devrait être à Gibraltar d'ici 3-4 jours. Nous avons par contre un petit souci. Nous avons perdu Starlink depuis ce matin. Le boîtier semble ne plus recevoir d'alimentation. Et en plus de ça, il est très épuré, donc inaccessible. On va sûrement devoir faire sans. Pour nous, ça pose deux problèmes. Le premier, la météo. Donc ça devrait aller de ce côté, mais on ne sait jamais. Et le deuxième, on ne pourra pas checker une application concernant les orques, mais ça aussi, ça devrait aller. En tout cas, j'espère. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je parle d'orques, c'est parce que depuis quelques années, une bande d'entre eux s'attaque aux voiliers proches des côtes vers le Portugal et l'Espagne. Mais le vrai problème de cette perte d'internet n'est pas pour nous, mais pour nos proches qui, habitués à recevoir des nouvelles, vont fort probablement s'inquiéter. Nous sommes désolés d'avance, mais on n'y peut rien. C'est le problème de la technologie, ça nous aide jusqu'au point où ça nous dessert. Si nous n'avions pas eu internet du tout, personne ne s'inquiéterait du fait qu'on ne donne point de nouvelles en l'espace d'une petite semaine. N'ayant pas dormi de la nuit, ou presque, je pars me reposer vers 15h en espérant dormir. Eh bien, je me suis réveillé à 19h45. J'avais besoin de sommeil, je crois. Merci à Laura et Dave d'avoir assuré la veille. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je commence également à croire que je dors mieux la journée que la nuit. Un peu après mon réveil, on se mange des bons burgers devant un autre coucher de soleil papier. Encore magnifique, en fait. Avant d'aller se regarder un épisode de série avec Laura. Mais juste avant ça, on décide de changer l'organisation des quarts. On commencera désormais à 21h30 au lieu de 22h. Ça faisait un peu trop tard. Et on fera des quarts de 3h30 au lieu de 4h. Ça faisait un peu trop long de se retrouver tout ce temps à régler les voiles tout seul, sachant que l'on est toujours pas des experts avec Laura. Pour terminer la journée, j'essaie de m'endormir un peu avant la prise de mon quart à 1h.
Eh oh Sacha, on m'entend de ta voix, hein.
Calmez-vous les filles.
T'as pas lu le Sun Tzu?
Ah oui, ça d'ailleurs, c'est cool. Ça. Moi, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler, mais je suis pas une très grande lectrice, malheureusement. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et justement, en fait, c'est pas en... De ce que j'en ai compris, après je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'est une analyse vraiment profonde, mais on m'a dit que ce n'était pas en fait vraiment quelque chose de sanglant et de barbare. En fait, justement, c'est pas de la stratégie.
Ce n'est pas du tout un livre de... Ouais, c'est de la théorie, tu vois. Enfin, c'est... Enfin, de la théorie. De la théorique, plutôt. Puisque, en fait, il ne raconte pas des batailles, il ne dit pas qu'il faut aller tuer tant de personnes pour vaincre l'ennemi, faire des trucs assez fourbes, assez abjects. Non, réfléchir en fait, ne pas se laisser emporter par les émotions. Comment gagner la guerre ou sans même avoir à la faire en fait.
Et moi, je remercie aussi le petit passage parce que pareil, j'y ai été confrontée et pas forcément que en voyage, mais dans la vie de tous les jours, du côté de Internet, c'est chouette et ça dessert aussi parce que en fait, du coup, il y a une grosse, angoisse ou un truc trop bizarre que dès que tu donnes plus de nouvelles les gens ils ont trop l'impression que c'est la fin alors que comme tu dis si depuis le départ en fait t'avais pas eu internet enfin tu vois ça aurait pas créé ce truc là et on a mais été plusieurs à le ressentir de les gens sont en panique totale dès t'as pas
mais au final moi pour notre cas nous en fait les gens étaient pas trop inquiétés ma mère je pensais qu'elle allait s'inquiéter tu vois assez rapidement bon pas tout de suite mais tu vois on est resté une petite semaine tu vois sans internet du coup et je me suis dit ouais qu'au bout de je sais pas 4 jours tu vois ça allait commencer à s'inquiéter quoi mais pas trop en fait ils se sont dit bon ça va tout va bien jusque là il y a pas de raison et ouais bah ils avaient raison mais du coup nous on s'est plus inquiété que eux-mêmes en fait
c'est ça tu vois, mais puis le fait que en fait normalement t'es censé avoir plein d'informations grâce à ça tu dis que le fait que tu donnes plus d'informations ça va peut-être
c'est ça moi j'avais habitué à poster des trucs régulièrement, tu vois, je me suis dit, bon, voilà, si je pose pas, je sais pas, les gens ils vont se poser des questions, ils vont se dire, mais parce que.
Oui, c'est vrai que tu peux avoir juste autre chose à faire.
Puis je me suis dit, ils allaient nous envoyer un message, on n'allait pas répondre, tu vois, ce genre de truc. T'sais. Mais bon, non, ça va. Mais ouais, en général, effectivement, c'est un problème de. C'est un peu un problème qu'amène la technologie, d'être.
D'être disponible en fait tout le temps pour les gens, tu sais, ou du genre.
Je sais pas si t'as ce truc là, mais ou si toi tu réponds un peu vite ou pas par message. Mais moi je suis quelqu'un qui répond plutôt vite, tu vois, parce que je passe peut-être un peu trop de temps sur le téléphone, tu vois. Mais du coup, des fois je suis obligé de me forcer déjà de pas répondre. tu vois, de me dire, réponds pas tout de suite, c'est bon, tu vois. Et à l'inverse, par contre, quand quelqu'un me répond pas, tu vois, mais des fois, enfin, pas dans la journée, tu vois, mais genre, tu sais, un ou deux jours, je suis là, mais putain, mais bon, pas, il n'y en a rien à voir. Il n'y en a rien à faire.
Oui,
de...
ça crée un ouais, truc dans le cerveau. Genre, malsain, un peu chelou,
tu vois.
Quoi,
alors que ouais, je suis là, j'ai pas envie de me dire ça. Je me dis, mais il peut faire ce qu'il veut. Il a peut-être lu le message et puis, puis il a fait autre chose, il a oublié. J'en sais rien, tu vois. Mais on s'en fout, en fait. Tu vois, mais juste automatiquement, je pense à ça forcément. Tu vois.
Ouais, après, je sais pas comment ça se passait pour tes parents, mais comme tu postais très souvent, en fait, finalement, enfin, moi personnellement, je les lisais pas tous les jours, tout le temps non plus. Donc,
ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup à lire en soi, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça. Puis vraiment, c'est tous les jours. Là, s'il y a une pause de 5 jours, bah, en fait, j'ai envie de dire, moi, je m'en suis même pas rendu compte. Tu vois,
ouais, non, mais c'est vrai. Je m'en rendais pas compte de ça, ouais, quand j'étais sur le bateau.
Je fais pas vraiment attention, quoi.
Ouais, ouais, non, mais t'as raison, hein, totalement.
Les proches, c'était... peut-être que ça les affole un peu plus, mais du coup,
ouais,
non.
Bah, mon oncle, ma mère aussi, elle m'avait dit, mais lui, il m'a dit, ouais, j'ai commencé à demander vite fait à ton père. Et s'il y avait eu genre un jour ou deux de plus, là, on serait, je pense, inquiété, on aurait commencé à appeler des trucs, machin, tu vois. Ouais. Mais ça va. C'était la limite, quoi, un peu. Fallait pas trop plus.
Et rapport aussi au sommeil, là. Tu disais, toi, t'as un sommeil de merde, c'est sûr, ouais, hein, tu galères bien. Ouais. Mais heureusement qu'il y a cette pause aux Açores, en fait, pour...
Ouais, enfin, pour... ouais, ouais. Un peu, mais... Après, c'était quand même beaucoup plus compliqué, là, à 3. Mais effectivement, ouais, ça a fait du bien. Après, tu sais quoi, tu sais ce que je disais, ouais, toi, t'étais pas là, mais ce que je disais, c'est que aux Açores, la première nuit, on a tous mal dormi. Parce qu'on n'était plus bercé. Non, mais on était dans le port.
Oui, oui, oui.
On était sur... Mais plus bercé.
Ouais.
C'était plat, du coup, ça a fait bizarre. Ouais. Et après, par contre, la deuxième nuit, là, on a super bien dormi. Et après, ouais, de repartir, là, c'était dur, là, j'arrivais plus. Non, mais moi, je galère de base, j'ai le sommeil hyper léger. Et du coup, les bruits me font. Enfin, le mouvement, les bruits, tout ça, ça me fait. Je galère. Mais ouais, là, je commence à être bien fatigué. Puis des fois, tu rentres dans des phases un peu. Tu sais, t'es un peu moins lucide, t'es un peu moins. Tu planes un peu, tu vois. Et je pense que c'est pour ça, tu sais, les navigateurs en solo, là, ceux qui font Vendée Globe, où tu dois vivre des trucs qui sont même pas imaginables, tu vois, parce que tu dois être dans un truc de fatigue, mais ouais, difficile à gérer. Et d'ailleurs, moi, je me posais, j'en discutais tout à l'heure avec mon père, parce qu'on parlait de bateaux, de navigation, et puis on parlait de monocoque aussi, puis je me disais, bah, nous, on a voyagé du coup en catamaran, et je me demandais si, du coup, en monocoque, si moi, j'arriverais à supporter ce truc-là, tu sais, du sommeil, parce que c'est encore plus dur, je pense. Après, t'as moins de bruit, donc peut-être que ça ira mieux. Mais bon, après, j'ai déjà dormi en monocoque et tout, ça a déjà fait. Mais sur une vraie traversée, est-ce que j'arriverai à trouver un rythme qui fait que c'est OK? Sachant que c'est beaucoup plus fatigant aussi sur un monocoque, vu que t'es tout le temps penché. En fait, ton corps, t'es tout le temps en train de compenser. Quand tu te déplaces, c'est beaucoup plus dur. Alors que sur un catamaran, bah, tu te déplaces, t'es à plat, quoi. En fait, bon, tu vas un peu à droite, à gauche, quoi, parce que ça bouge un peu, tu vois, mais t'es à plat, en fait. Alors que sur un monocoque, bah, t'es tout le temps... penché, t'es tout le temps en train de te retenir, en train de compenser avec des abdos. Je me demandais, je me posais la question, je pense que je le vivrai un jour et puis que je verrai si, bon, j'encaisserai, à mon avis, à la fin, je serai complètement mort, mais fatigué,
même socialement, la fatigue devait jouer aussi. Après,
ouais.
Sur un kata, t'as quand même plus de place, du coup, on va dire, pour te déplacer, si t'es sur un monocoque, socialement.
Ouais, ah oui, ouais, c'est clair. Ah, tu. Ouais, je connais, mais moi, je connais des gens qui ont fait ça, qui s'entendaient pas en monocoque et qui ont dit, ouais, il y en avait, ils étaient à l'avant. Tu sais, mais bon, des fois, il fait pas beau, tu vois, t'es à l'avant du bateau, t'es pas bien, quoi, tout le temps, tu vois. Et sinon, ouais, cabine ou quoi. Sur le kata, ça, c'était pas mal. Ça, on avait notre cabine, on était bien, tu vois, lit assez grand, assez, tu vois. Ça permettait d'être OK. Ben, merci à vous d'avoir écouté aujourd'hui notre podcast.
Merci à toi. Un grand échange de 41 minutes.
Ah ouais,
pour cet
c'est dernier.
Il passera pas dans la rubrique info, celui-ci.
C'est dernier, on prend notre temps.
Ouais,
on prend
notre
temps.
Mais bon. En tout cas, merci à vous de vous être déplacé, d'avoir donné vos petits points de vue et tout. C'est toujours un chouette moment à partager.
Avec plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Obviously.
Ciao, ciao.